est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail. Animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 5 décembre 2022 du monde merveilleux d'après. On est pile poil dans le centenaire de l'AIT. AIT, c'est l'acronyme pour Association Internationale des Travailleurs. Nous évoquerons donc cette AIT de Berlin de 1922. Alors, ce n'était pas la première association de travailleurs à caractère international, mais cette dernière mouture recentrera les visées internationalistes via les syndicats révolutionnaires au mouvement ouvrier et sa capacité politique révolutionnaire et économique. Nous évoquerons certainement les dérives autoritaires des associations internationales précédentes, instillé par les partis politiques et notamment le gouvernement pseudo-soviétique de Staline, qui au passage aura fabriqué sa propre institution, jusqu'à leur dissolution, ou plutôt abandon. Nous vous proposerons quelques pauses musicales de circonstances ou non, dont une après la chronique. Aujourd'hui, les pensées du Mercator, le syndicalisme révolutionnaire, et alors ? Comment cette journée internationale du ninja, entre autres, réorganiser l'ensemble du mouvement ouvrier, vous le saurez en écoutant le monde merveilleux du travail, mais avec un katana coupe-papier sous la main.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hurrah. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Ah ouais, patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
Le syndicalisme révolutionnaire, et alors ? Eh oui, amis auditeurs du monde merveilleux du travail, chef puissant et vénéré, karatémique au loin, camarade technicienne, bonsoir. Alors les auditeurs du Monde Merveilleux du Travail, les chroniques du Mercator et plus généralement les émissions du Monde Merveilleux du Travail vous intéressent-elles ? Sont-elles selon vous pertinentes ? Aiguisent-elles votre esprit critique ? Ou encore êtes-vous sans voix, béat d'admiration, subjugué par notre travail au demeurant, remarquable sinon exceptionnel dans le monde radiophonique de tous les temps ? Troisième hypothèse, nous ne nous adressons à personne, car vous êtes tous morts. Mais, quand bien même aurais-tu des flatulences, quand bien même serais-tu coincé quelque part dans l'espace intersidéral, quand bien même serais-tu incapable, ô ami auditeur insignifiant du monde merveilleux du travail, de comprendre ces questions au verbe stendhalien et à l'épanode moliéresque, envoie-nous un signe, un petit signal fut-il de détresse. Ça fait toujours plaisir. Je te rends néanmoins justice, ami auditeur troublé. Parfois, tu écris au monde merveilleux du travail. Il arrive que tu téléphones durant nos émissions. Continue et change de main. Je n'aurai qu'un seul mot, à poil Raoul. Mais glissons vite vers le sujet qui préoccupe, qui nous préoccupe ce jour, tel un paix sur une toile cirée. Alors, à quel film ai-je emprunté cette réplique métaphorique ? Écrivez-moi. Je ne vous répondrai jamais. Aujourd'hui, le syndicalisme révolutionnaire est de nouveau au cœur de notre émission à travers sa renaissance internationale après la Première Guerre mondiale. Le militarisme hystérique d'août 1914 avait acté la mort du syndicalisme structuré alors en plein essor. Bourgeois républicains, bourgeois socialistes, petits bourgeois étriqués, pusillanimes ou réactionnaires, employés démocrates, ouvriers patriotes, paysans égoïstes et roublards, c'est un pléonasme, Syndicaliste progressiste, syndicaliste professionnel, adhérent de tout poil à la citoyenneté et au parlementarisme, adhérent au poil du cul de Marianne comme à ceux de la perruque du roi défunt, tous étaient partis la fleur au fusil mettre une déculottée aux boches, descendant de ces fumiers de Hulan. Ils allaient voir ce qu'ils allaient voir, et en deux temps trois mouvements encore. Quelle bande de nazes! Et puis, ils en profiteraient pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, parce que, faut pas déconner, c'est à eux. En face, nous trouvions globalement les mêmes abrutis. La différence était qu'ils voulaient conserver l'Alsace et la Lorraine, parce que c'était à eux. Quelques pacifistes, bien sûr, je pense à Romain Rolland, à Jean-Alba Alvart, mais surtout une poignée de militants anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires s'opposèrent à la guerre. Émile Pouget, Victor Greffuels, Alphonse Merheim, Pierre Monat, Benoît Broutchou. Ces deux-là furent arrêtés et envoyés au front où Broutchou serait d'ailleurs gazé. Pareil outre-Rhin avec un militant syndicaliste révolutionnaire comme Fritz Katter. Il n'a pas été mobilisé car il était trop âgé, il avait 52 ans. Il avait quitté la social-démocratie en 1908, qu'il trouvait molle et inopérante. Il avait cofondé l'association libre des syndicats allemands et deux périodiques, l'hebdomadaire L'Unité et un autre journal, Le Pionnier. Tous deux, bien sûr, interdits lorsqu'éclata la guerre. D'autres libertaires allemands, l'anarcho-syndicaliste Friedrich Koester ou l'anarchiste Gustav Landauer, firent partie de l'aventure. La guerre impérialiste, à peine rassasiée de ses millions de victimes, Fritz Katter fut à nouveau à la manœuvre en décembre 1918 pour éditer le premier numéro de Der Syndicalist. Puis en 1919 pour participer à la création de la FAUD, dont le syndicaliste était l'organe. Très vite, Katter développa des relations internationales dans un esprit antimilitariste et antiparlementariste, et bien sûr anarcho-syndicaliste. Parut alors le bulletin international des syndicalistes révolutionnaires et industrialistes. Le premier numéro est du 16 juin 1922. Rédigé et administré par le même Fritz Katter. Cet organe préexista à l'organisation en gestation. Le Congrès international des syndicalistes révolutionnaires, fondateur de l'Association internationale des travailleurs, dont mon camarade a parlé, dans son édito, se déroula à Berlin du 25 décembre 1922 au 2 janvier 1923. Katter publia ensuite un bulletin d'information de l'Association internationale des travailleurs. Le premier numéro date du 15 janvier 1923. L'Association internationale des travailleurs anarcho-syndicalistes était née. On n'a pas le droit de petite musique, non bon.
Faut prévoir, hein.
Un espoir se matérialisait pour tous les ouvriers et les paysans, les employés et les privés d'emploi. Enfin, un espoir pour ceux qui avaient choisi de se sortir les doigts après avoir pris conscience que la lutte des classes était un fait têtu. Un espoir pour ceux qui comprirent que les travailleurs n'avaient rien à attendre des partis politiques, des élections, de la démocratie bourgeoise représentative, des superstitions religieuses, de l'État et des patrons. Une internationale avait été créée en réaction contre une guerre mondiale terrible et inédite, tant par ses causes, ses développements, que ses effets multifactoriels. Calme-toi, ami auditeur, et termine ta boîte de raviolis top budget. Cette internationale, rouge et noire, aura bientôt 100 ans. Ah, ça te la coupe, n'est-ce pas? Fais-moi plaisir, ferme la bouche et avale ton ravioli. Bien sûr, comme toutes les œuvres humaines, les militants s'engueulaient, fraternisaient, s'excluaient, firent scission, se rabibochèrent ou se détestèrent jusqu'à l'extinction d'une espèce de l'écosystème syndicaliste révolutionnaire. Est-ce la faute du biotope étatico-patronal? Cela relève-t-il de la biocénose maladroite et pas toujours bienveillante du syndicalisme? Va savoir. Cette internationale a néanmoins survécu à tout, y compris aux raviolis et aux syndicalistes eux-mêmes. Alors, amis auditeurs ou physiques ingrats, je vous le demande, ce lundi 5 décembre, à quelques jours de fourrer la dinde aux hormones et de faire péter le mousseux à l'antigel, à la veille de ses 100 ans, nous en faisons quoi de cette Association internationale des travailleurs anarcho-syndicalistes? Allez, à bientôt et arrêtez d'acheter tout le temps n'importe quoi, n'importe comment.
Voilà. Qu'est-ce que c'était que cette musique de sauvage encore qui sent rudement les années 80? C'est de la New Wave?
Ouais, c'est ça, c'est de la New Wave. Ouais. C'est pas de la New Wave, c'est du bon rock. C'est un groupe, alors contrairement à ce la langue qu'ils utilisent, c'est un groupe français, les Dogs, avec un groupe magique, en fait, un guitariste qui était super gentil en plus, Dominique Laboubé, un batteur qui était efficace, qui était quasiment, qui devait dire un mot par jour, pas plus, Michel Gross. Et puis, le survivant du trio, qui est du combo de l'époque, hein, qui a un peu varié, mais très peu, qui est Hugues de Hurvoy de Porzamparc. Et voilà, c'est le morceau Algomania, j'ai découvert le groupe avec ce morceau, fin 79. Quoi.
Ouais.
Bon, ça ne nous rajeunit pas, mais...
Ah non, mais... J'écoutais pas ça. Et j'écouterais pas non plus.
J'étais passé par quelque chose de plus rude auparavant, et puis un jour, un copain m'a dit « Écoute ça, c'est pas mal. » Bah oui, parce que la vague punk était un peu passée, donc on était dans une... Les groupes français, il n'y avait pas beaucoup.
Donc, ouais, mais c'est, moi, c'est le son, c'est la...
Ah,
la
batterie, le son 70.
C'est pas 70, c'est 80. Ça annonce les années 80.
C'est la production qui est 80, mais...
Je me rappelle plus là, le nom du groupe là, qui a fait le morceau Psyché. Putain, je me souviens plus. Puis quand la technicienne n'écoute pas, bah forcément, elle peut pas m'aider. Psyché. C'était le groupe. Quel groupe chantait ça? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Aussi, les machins de joke, là. Killing Joke.
Killing Joke, ouais.
Voilà. C'est assez proche, en fait. Un peu de la Cold Wave, c'est...
Pas
beaucoup. Enfin,
les Dogs, ils ont une histoire qui remonte un peu à...
On s'en fout.
au début des années 70, quand même, ils sont un peu plus âgés que moi. Ils étaient, parce qu'il n'y en a plus qu'un. Donc voilà, s'ils sont passés par différentes phases de... Mais c'est léché, les morceaux sont assez léchés, et comme toujours, alors moi je suis toujours déçu parce que j'écoute en studio, parce que c'est des groupes que j'ai vus en concert, et c'est pas la même chose.
Ouais.
Voilà. Parce que tu vas au concert, pas pour la musique.
J'étais en concert, et quand les groupes sont mauvais, ils sont mauvais.
Les groupes anglais étaient pas bons. Les groupes anglais étaient pas bons, ouais.
Non, je les connaissais pas, mais bon, mais j'écouterais pas, c'est sûr.
Les groupes anglais étaient pas bons. Quand j'ai découvert qu'il y avait des groupes français qui... eux chantent en anglais, mais il y a d'autres. Je pense qu'au Liebenstein, par exemple, qui était... c'était absolument magnifique, quoi, Liebenstein. Et je passerai un morceau un jour. En fait, oui, musicalement, les groupes anglais étaient pas bons. En 77, 78, 79, c'était pas...
Ça dépend...
Les groupes américains étaient meilleurs. Enfin, un peu, techniquement, je veux dire.
Bon. Ouais. On va pas faire une émission sur la
musique, bon, voilà.
Ce qui me déplairait pas en soi, mais c'est pas le
c'est
but.
C'est un autre sujet.
Voilà, vous avez compris, chers auditeurs, que bon, vous êtes sur Radio Libertaire, je vous le rappelle, dans le monde merveilleux du travail. Qu'on doit parler de l'Association Internationale des Travailleurs, de l'AIT, en fait, plus connue sous l'AIT, parce que c'est vrai que ça peut faire confusion. Mmh. Quand on dit Association Internationale des Travailleurs, ça fait référence à la première internationale, et l'AIT, c'est Berlin 1922. Mmh. Voilà, donc on va retourner dans le sujet.
Et je repose ma question fondamentale, c'est... Que faisons-nous aujourd'hui de cette Association internationale des travailleurs anarcho-syndicalistes? Parce que finalement, on verra dans notre propos qu'elle s'est... Alors, en tant qu'effectivement Association internationale berlinoise, elle n'existe plus, mais elle a continué à vivre.
Elle a été...
Elle continue à
exister,
ouais.
Encore. Est-ce qu'on commence par la fin?
On
le fait dans l'ordre chronologique.
On peut faire un petit balayage chrono pour commencer. C'est parti, mon kiki.
Ouais.
Alors,
la première internationale, Association internationale des travailleurs, connue sous le nom officiel de Première internationale, elle se crée le 28 septembre 1864 à Londres. à l'initiative de militants français, anglais, allemands, italiens, et afin de coordonner le développement du mouvement ouvrier dans les pays européens récemment industrialisés. Voilà.
C'est une internationale assez hétérogène quand même, hein, parce qu'il y avait des trade unionistes anglais, il y avait des Français qui étaient de tendance, des Proudhoniens qui représentaient un courant anarcho, anarchistique, libertaire. C'était un peu les il y a des Italiens, les Mazziniens, qui étaient en fait plutôt des un peu des patriotes, quoi. Une espèce de c'est l'ouvriérisme patriote. Enfin, ouais. Donc tout ça, ça pouvait pas coller très longtemps, quoi. Et chacun avait des buts différents, c'est ça aussi, c'est que on s'était assemblés pour s'unir et alors tu aurais donné effectivement le but principal, mais derrière, comment mettre ça en musique, c'était compliqué parce que chacun tira à U et à Dia en fonction de ses intérêts
nationaux.
Oui, c'est ça, nationaux. Oui, bah faut le dire, c'est ça, ouais. Nationaux. Donc bon, c'était
ça quand même la première internationale a quand même eu une grande influence dans la commune de Paris. Il faut le souligner quand même, en 1871. Il y a quand même quelques personnages truculents. Enfin bon, ouais, il y a Varlin, il y a Potier, qu'on a déjà évoqué sur ses antennes, cette antenne. Enfin, d'autres aussi, on va pas tout faire. Il se trouve que dans cette... dès 1869, il y a des... Ah ben oui, il y en a un que j'ai pas nommé, c'est Karl Marx quand même. Mais sorti de la tête.
Puis son poteau est Engels, parce que c'est... Voilà, c'est...
Non, déjà, dès 1869, il y a des débats qui divisent un petit peu les divers partisans de Karl Marx et puis les anti-autoritaires. Réunis autour de Michel Bakounine. Donc en 1871, c'est la défaite de la Commune. Et là, justement, le débat va se réanimer sur les divisions et jusqu'à amener à l'exclusion en fait, des anti-autoritaires par la mouvance marxienne.
Ouais. C'est marrant, c'est jamais l'inverse en fait.
Les autoritaires, ils arrivaient. Ouais, il faut croire que l'autoritarisme, ça marche bien.
Efficace. Ouais, donc et puis en 1876, il y a une dissolution parce que là, elle est vidée en fait de toutes ses forces. Finalement, l'international a plus trop de raison d'être. Et puis, je crois que c'est Marx qui l'a dissous.
Ça me semble bien, oui.
Ouais, c'est Marx qui l'a dissous. Puis dissous, c'est pas cher. Non, comme il n'avait pas réussi à en faire un instrument selon son goût, selon sa doctrine, et puis que ça avait, à partir du moment où les forces vivent, parce que c'est sur les socialistes révolutionnaires, sur un certain nombre de tendances qui étaient opposé au marxisme, hein, enfin au marxisme marxien, quoi, que reposait la dynamique des actions, et quand c'est plus qu'un comme une chambre d'enregistrement pour intellectuels sur le déclin, c'est pas intéressant, quoi. On n'est plus dans la réalisation. À un moment donné, ça s'est coupé. La Commune a aussi révélé que finalement, c'est par l'action directe, par l'investissement des ouvriers dans leur propre lutte, dans l'organisation de leur lutte, dans leur choix propre, et que ça s'est fait en dehors de tout guide, de tout penseur qui va t'envoyer les messages et puis t'envoyer finalement le fil conducteur.
C'est vrai qu'on regrette souvent que la Commune, il n'y a pas eu Blanqui et Proudhon qui étaient morts 5 ans avant. Et Blanqui qui était emprisonné, ouais, qui avait été emprisonné quelques mois avant. Mmh. En fin de compte, c'est peut-être pas plus mal.
Bah, ouais, bah après.
Et là, du coup, il n'y avait pas de leader qui te qui risquait de te chier dans les bottes. Ou je sais pas, enfin, je sais pas, ça serait peut-être passé autrement. Peut-être que ça serait. Ouais. Enfin bon.
Ouais, on va pas refaire l'histoire. C'est le propre des mouvements. Des mouvements révolutionnaires en France, qui ensuite sont de toute façon ont été récupérés, on en a parlé au cours des missions précédentes, que ce soit 1789, même si on peut en discuter, tout ça c'est sujet à caution, 1830, 1848, à chaque fois il y a un élan populaire, il y a des discussions au sein de dans les cafés, dans les sur les places, dans les clubs, et il n'y a pas vraiment de leader. Et puis finalement, au moment où les mouvements prennent de l'ampleur, parce que se fédèrent les mêmes souffrances, les mêmes ras-le-bol, les mêmes envies, là, clac, c'est pris en main par ou c'est sabré, hein, comme en 1848, sabré, hein, pif paf.
Au propre comme au figuré.
Ouais. Et où c'est repris en main par et puis en 1871 aussi sabré, hein. Et mais là c'était beaucoup plus. C'est la seule révolution, c'est la dernière révolution française, finalement, 1871. Et c'est la seule révolution vraiment où la bourgeoisie établie, hein. Je parle pas du petit bourgeois qui a un peu fait d'études, etc., mais qui finalement va adhérer au peuple parce qu'il en fait partie, mais de la bourgeoisie établie qui va voler une révolution ou un mouvement révolutionnaire. C'est assez extraordinaire, et effectivement on peut déplorer que ça ait échoué parce que c'était nouveau finalement par rapport aux autres révolutions. Alors 89, c'est même une autre époque, quoi, où la part de la paysannerie a quand même été a influencé pas mal, quoi, le mouvement qui n'était pas ouvrier. Quoi, voilà.
Oui, pas beaucoup d'ouvriers encore à l'époque, ceci expliquant.
Ça explique cela. Ouais.
Voilà, donc Bakounine est exclu au congrès de la Haye, de la première internationale, donc en 1872, mais au préalable. Auparavant, en novembre 1871, il avait créé la Fédération Jurassienne. C'est toute la Fédération Jurassienne qui a dû être
certainement. Oui.
Bon, il n'était pas tout seul, hein, Bakounine. Hein. Il y avait James Guillaume aussi, il y avait d'autres personnes. On ne crée jamais quelque chose tout seul. On peut être une initiative, mais il faut quand même être plusieurs. Hein. Je ne voudrais pas qu'on croie que. On a parlé de Proudhon, je parlais de Blanqui, et puis on parle de Bakounine, Marx, c'est pas juste ces personnes-là, sauf Marx, qui mènent les luttes ou qui impulsent les luttes. Ils font partie, après ce sont des penseurs, ils ont laissé des écrits, d'autres aussi, mais sont les plus connus.
Nous, dans notre. Je pense qu'on partage la même idée, c'est que quand on dit Marx, Bakounine, enfin surtout, pas Marx, Bakounine, Proudhon, Blanqui, Griffuel, c'est pour synthétiser un ensemble qu'il faudrait lister à chaque fois des dizaines voire des centaines de noms d'hommes et de femmes qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Donc c'est un raccourci un peu facile qu'on utilise, mais on n'est pas limité à ça, bien au contraire.
Donc la Fédération Jurassienne organise un congrès à Saint-Imier qui va regrouper plusieurs fédérations internationales, les Italiens, Espagnols, Français, des Américains aussi, ces deux sections américaines auparavant, et qui refuse la politique autoritaire menée par le Conseil Général de Londres, dominé par Karl Marx. Oui, en 1876, tout se casse la gueule. Donc en fait, le seul courant autoritaire, est quand même repris par cette par la fédération, est portée par la fédération jurassienne. Voilà, continue dans la chronologie, on parle oui, un peu, donc il y a une deuxième internationale dit qui se
oui, en 89.
89 jusqu'en 1914. Ouais. En 80, ouais, alors on va passer vite dessus, hein, parce qu'on se, je dirais pas qu'on s'en fout, mais en 14 elle s'effondre aussi parce que les visées des internationalistes, c'est effectivement de réaliser la fraternité entre les peuples. Or, en 14, il y a la Première Guerre mondiale et les, justement les partis socialistes qui sont entrés au gouvernement, enfin les délégués, votent les crédits de guerre. Ce qui va quand même mettre un sérieux, porter un sérieux discrédit à cette internationale.
Et ça fait aussi, enfin le mouvement syndical, c'est la CGT essentiellement à l'époque, hein, en France, ça fait imploser la CGT aussi. Hein. C'est-à-dire que y a la partie réformiste, celle qui s'est finalement assez qui est assez satisfaite de son statut, parce que maintenant la CGT a un statut, parle au pouvoir politique, et il y a ceux-là, et puis il y a ceux qui sont contre, et contre cette adhésion, ce rapprochement des sociaux-démocrates, avec les sociaux-démocrates, et qui vont quitter le giron de la CGT, ne serait-ce que parce qu'ils sont antimilitaristes, qu'ils sont contre la guerre et qu'ils sont restés finalement, ils sont peu nombreux, hein, fidèles aux idées syndicalistes révolutionnaires.
Bah, oui, ce sont les syndicalistes révolutionnaires, en fait, hein, essentiellement.
Bah, y a une scission, par exemple, entre un Jaurès et un Jules Guesde, quoi. Même si après on a filé toute une un peu de mythologie autour de Jaurès assassiné, enfin ok, c'est pas bien, mais voilà, Jaurès c'est pas,
en tout cas le fait qu'on l'assassine, ça lui, effectivement ça l'exonère,
oui, exactement, ouais,
ainsi de rentrer dans l'union sacrée, exactement, des crédits, ouais, pour la guerre, c'est, ouais, il reste, on va dire à ce niveau là il reste propre. Voilà.
Merci qui, je sais plus,
un nationaliste qui l'a tué,
ouais,
qui l'a assassiné,
ça, ouais, j'ai plus le nom en tête, mais ça me,
ouais, moi non plus, on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, non, ouais, mais bah, il a été était emprisonné, mais puis il était gracié après aussi.
Ouais. Ah bah oui, mais bon, faut pousser quand même. et puis la guerre éclate, donc là, effectivement, des deux côtés, hein, je parlais de Cater tout à l'heure, plus d'autres personnages sur lesquels on reviendra. Tout le monde n'est pas pour la guerre, hein, du côté allemand comme du côté français. Il y a des résistants, des opposants, et qui finissent en prison. Qui sont même certains sont envoyés quand même, sont arrêtés, emprisonnés, puis ensuite balancés au front. C'est le cas de Brouchou, par exemple. Bah, c'est la double peine, quoi. Enfin, je veux dire,
ouais, si on peut s'en débarrasser comme ça, c'est tout bénef pour le gouvernement.
Donc, il y a eu de part et d'autre des personnes, des militants dans ce cas. Et puis, ils ont fini quand même par se réunir, on en a déjà parlé lors d'une autre précédente émission, à Zimmerwald en 1915, et ensuite à Kintal, toujours en Suisse, en 1916, il y a deux conférences qui verront une tentative de restructuration des anti-guerres, des syndicalistes révolutionnaires, un mélange avec le pacifisme. Puis on a aussi des personnages qui sont beaucoup plus douteux, comme Lénine.
on ne savait pas à l'époque.
Ouais. Et c'est Lénine qui, d'ailleurs, solde, lors d'une de ses réunions, solde la deuxième internationale. Ouais. Il emmène tout le monde avec lui en disant, voilà, ça ne sert plus à rien, de toute façon, regardez où ça nous a mené. En soi, en quoi il n'avait pas tout à fait tort.
Après, c'était... seconde internationale, c'est quand même plus une internationale... C'est pas une internationale ouvrière, et anti-autoritaire. Donc c'est une internationale de partis.
C'est une internationale social-démocrate, socialiste, oui, social-démocrate.
Voilà.
C'est à l'initiative d'Engels, d'ailleurs, qui est sur la fin aussi. Enfin, il était très âgé. Mais bon, voilà, c'était politique, hein, c'était parti politique, c'était plus du syndicalisme.
Comme quoi, dès on peut se prétendre socialiste, quoi que ce soit, dès qu'on rentre dans le gouvernement, ou dans les ministères, c'est fini. Hein. Faut faire une croix sur les... faut pas s'attendre... Chers auditeurs, amis auditeurs, si vous avez des copains de la famille qui sont qui sentent socialistes, qui pensent que les partis vont même Mélenchon ou je ne sais qui vont vraiment changer les choses, dites-leur de revoir un petit peu l'histoire.
Ouais.
Et c'est pas les partis politiques qui participent au gouvernement bourgeois qui vont changer quoi que ce soit. Ouais, ils vont vous apporter des petites améliorations. Mmh. Enfin, on voit où on en est en 2022. Fin 2022.
Et puis, c'est... puis, participer au pouvoir, c'est pas le prendre, c'est pas en faire autre chose. C'est simplement y participer à une structure et à un mode de fonctionnement déjà existant. Donc, on finit par y adhérer.
Oh, et puis t'es quand même pas malheureux hein, quand tu rentres au gouvernement. Hein ?
Ouais.
À l'Assemblée.
J'ai pas d'expérience, mais je peux bien le croire.
Ouais. Bah, en général, ouais.
Mais je sais pas combien ça gagne un ministre ou un député.
Je sais plus, ça doit être... 7000 euros, un truc comme ça. Je sais plus exactement, on l'a peut-être déjà évoqué, mais j'ai pas de tête, puis en plus je suis malade.
Enfin bon, c'est un peu plus que le SMIC, quoi.
Un peu plus que le SMIC et le RSA réuni.
Ouais, réuni, ouais. Une famille de 4 personnes. Eh ben oui. Voilà. Bon. Mais alors, donc on arrive à ces fameuses conférences. Où dedans il donc on a vu que Lénine y participait, on a vu aussi qu'il y avait des Français qui participaient à ces conférences. Il me semble qu'il y a c'est pas Monat qui participait à ces
Pierre Monat. J'ai vu ça quelque part, ouais, voilà. Entre autres.
Pierre Monat. Alors là aussi, hein, c'est des discussions un peu vives. En même temps, on est en Suisse, donc. On espère que il s'agit de préparer l'après-guerre, et de réorganiser le mouvement ouvrier. Donc, là déjà, il y a deux tendances, hein, puisque le marxisme n'est pas mort, car il bande encore, Et le petit Lénine, il va reprendre. Je crois qu'il est avec Zinoviev, non, il n'est pas avec Zinoviev à Kintal. Enfin bref, il n'est pas seul, comme on disait tout à l'heure. Ils sont une tripotée de glandus et ça se passe pas bien puisqu'il y a deux tendances, de toute façon qui étaient clairement dès le départ. Hein, alors bien sûr, on essaie de pas s'entretuer, mais vous voyez, les autoritaires et les anti-autoritaires. Il y a pour l'organisation hiérarchique, pyramidale, structurée, bien encadrée.
Où les masses doivent bien écouter ce que les chefs ont dit.
Exactement. Ben voilà.
Et
quelque chose de propre.
Voilà, quelque chose de propre. Et les autres, c'est le bordel, ça va dans tous les sens, et ça laisse tout le monde décider, participer à tout. Voilà,
et donc,
on appelle ça les anti-autoritaires.
Et très rapidement, donc, la guerre se termine. Et en Allemagne tout de suite, je disais tout à l'heure que Kater avait dès décembre 1918, donc au lendemain de l'armistice en Allemagne, alors c'est un vieux monsieur déjà, hein, il avait 52 ans en 1914, il en a un peu plus, il n'a pas été mobilisé, il n'a pas eu cette chance là, mais enfin bon, on l'a emmerdé tout.
Tu parles d'une chance, toi.
Enfin,
t'as eu la chance de pas être mobilisé.
Oui, la chance de pas être mobilisé. Il faut pas oublier que en Allemagne, la population vivait, était quand même assez, on était limite de la famine, quoi. On était à la limite de la famine en Allemagne. Donc tout le monde a mangé. Et lui, il a toujours encore la ressource remonter dans un élan internationaliste, anti-militariste et surtout anti-marxiste, de remonter un petit journal et puis après une structure sur la base des militants syndicaux qui avaient survécu. Bah oui, parce qu'ils sont partis aussi. Ceux à qui on a mis un fusil dans les bras. Voilà, donc on est au toute fin de la guerre et on va savoir ce qui se passe ensuite. Après une.
Bah, c'est une petite pause musicale, ça me permet de prendre un petit verre d'eau puis d'arrêter de tousser dans le micro. Comme on n'a pas grand chose, on va se passer l'international noir et on en parlera après. T'es parti? T'es presque parti. Ça part.
C'est parti.
Debout les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentant sous leurs pas un cratère, au passé se sont acculés. Leur ligue folle et meurtrière voudrait à l'horizon vermeil éteindre la lente lumière que verse le nouveau soleil. Debout, debout les damnés de la terre, ce qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains. Que la Troisième République se prostitue au tsar pendeur, qu'une foule extra-lunatique adore l'exterminateur. Puisqu'il faut que tout disparaisse, que nous importe, c'est la fin. Par tous les peuples en détresse, s'éveille se donnant la main. Debout, debout les damnés de la terre, ce qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains. Les potentats veulent la guerre afin d'égorger leurs troupeaux pour cimenter chaque frontière comme on consacrait les tombeaux. Mais il vient le temps d'un où dans l'immense apaisement, loups de France et de Sibérie, loups humains jeûneront de sang. Debout, debout les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. Debout, debout les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains.
Donc c'était l'International Noir, interprété par les Quatre Barbus, sur un texte de Louise Michel, me semble-t-il. Oh, oui. Il s'est endormi, Eric Dylan.
Non, je, bien sûr, non, j'ai un petit coup de barre. Oui, tout à fait.
Ah oui, j'ai pas de chanson sur l'AIT, donc...
Bah, c'est bien aussi, ça. Ouais. Ça permet d'illustrer un petit peu nos... Enfin, de ponctuer de manière agréable nos propos... Parfois un peu rude, un peu sec. Mais je voudrais simplement revenir, tu sais, sur cette permanente affrontement entre les autoritaires et les autres, les non-autoritaires. Parce que des associations, en fait, il y en a eu auparavant. C'est-à-dire que moi, j'ai noté que, par exemple, en 1847, il y avait Marx et Lénine, qui étaient des défendait plutôt un socialisme utopique, hein, tu vois.
1847
47, oui.
Marx et Lénine
Marx et Engels, pardon. Ouais, Marx et Engels. Qui défendait un socialisme utopique, très vachement influencé par le babouvisme, la Révolution française, mythique, enfin, le truc un peu... Ils avaient créé une Ligue des communistes. Bon, évidemment, ça avait a été dissoute un peu de manière autoritaire en 1852.
L'hôpital qui se fout de la charité.
Ouais. Et puis en 49, par contre, en France, il y a eu une union des associations fraternelles qui était fondée à Paris par un militant socialiste. Alors c'est pareil, c'est pas des syndicalistes. Hein. On a affaire pour l'instant qu'à des socialistes. Alors c'est souvent des petits bourgeois, des militantes de la cause féministe comme Pauline Roland, mais c'est des. On n'est pas dans le. On cherche toujours à transformer la condition ouvrière de l'extérieur. Mmh. Ça, c'est typique de. Et je peux remonter encore dans les années 1830, juste après la Révolution en France, en tout cas. Il y a toujours des bonnes âmes qui cherchent, alors bien attentionnées, hein, qui elles-mêmes se montrent attentives et puis financent des fondations, des actions en faveur des ouvriers, des premiers pour les conditions dans les mines, dans la sidérurgie. Mais c'est toujours de l'extérieur, c'est-à-dire que les ouvriers sont des...
Ils ne sont pas là pour décider, non. Ils sont là des fois pour suivre s'il faut, mais on ne leur demande pas de...
Non, ils font un bienfaiteur.
Prendre part, en fait.
Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas capables de s'auto-organiser. Ils leur font un bienfaiteur pour améliorer leurs conditions de travail. C'est assez marquant.
Bon, après, peut-être que les conditions de travail, les horaires de travail, ça ne leur permet pas trop non plus de...
De réfléchir, hein, c'est sûr. Heures de mine.
14, 16 heures de voilà. Ça ne te reste pas grand-chose après pour...
Et puis, j'ai noté aussi qu'après, juste avant la première internationale dont tu as brièvement parlé, en 1855, il y a une association internationale, alors c'est le premier, premier mot international, que j'ai pu trouver en tout cas, d'obédience socialiste, et qui est fondée à Londres par en fait des exilés. C'est-à-dire qu'un certain nombre de militants, des Allemands, des Polonais, des Français, quelques chartistes anglais, et alors, elle est dissoute en 1859, donc 4 ans après, c'est une vie très courte, à peine le temps de s'organiser, et parce que, en fait, c'est une espèce d'autodissolution lorsque les anarchistes exigèrent l'abolition du comité permanent de l'association. C'est-à-dire que ils voulaient faire rotation des tâches, rotation des mandats, que tout le monde décide en assemblée, etc. Et donc, ça n'a pas fonctionné, les autres n'ont pas voulu, donc pouf, dissous. Donc, il y a aussi, il y a le fait de, on aide les ouvriers, c'est une époque avant 1860, les années 1865, on aide les ouvriers de l'extérieur, on ne leur reconnaît pas le droit à s'organiser. Puis, disons que c'est des êtres tellement mineurs, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue puis on leur donne du travail, imagine un peu. Le patron leur donne du travail. Enfin, sinon, ils savent pas quoi. et quand c'est pas un patron, c'est en fait des militants, des intellectuels qui viennent leur imposer des choix. Et lorsque parmi eux certains se prennent au jeu et commencent à réfléchir à autre chose. Et forcément, ils adhèrent à des idées plus... à du socialisme révolutionnaire, à de l'anarchisme, des tendances plus radicales, enfin, en tout cas, plus tranchées. Tout de suite, on leur fait savoir que c'est pas possible. Voilà, c'était un peu la tendance du demi-siècle précédent. Hein.
C'est peut-être ce qui a perduré jusqu'à la fin de la deuxième internationale. Cet esprit de, tu vois, on va organiser les masses, mais enfin, on va quand même on va les diriger. Ça va être une rupture, je sais pas si tu voulais continuer un petit peu sur les différentes, mais une rupture complète, avec justement l'AIT de Berlin en 1922.
Et ce qui fait son originalité, c'est que ce sont des syndicalistes, cette fois-ci, déclarés. C'est-à-dire que entre-temps, c'est vrai qu'on a parlé de Lénine tout à l'heure, qui était à Zimmerwald et à Kintal. Alors après, il en a, hop, il s'est passé des choses, après 1916.
Il paraît, en 1917.
Voilà, révolution, voilà, bolchevique. Et puis...
c'est pas une révolution bolchevique tout de suite.
Non.
Ça va devenir.
Ouais, ça tourne vinaigre. Ouais. C'est le bordel, c'est la guerre après. Ils n'ont pas cessé d'être en guerre de 1914 à... En 1921-22. Quand c'est le désordre, parfois ça aide certains à organiser l'ordre.
Une certaine vision de l'ordre.
Voilà, une certaine vision de l'ordre. Donc, Lénine en a profité pour se débarrasser de tout le monde. C'était ça son idée de l'ordre. Voilà. Moi tout seul, chef. Et puis tout le monde va être heureux. Donc, et en plus, il avait quand même une visée internationale, puisque en 1919, à Moscou, il se débrouille quand même pour créer une internationale communiste. En mars, pas très longtemps après la guerre, hein, finalement, hein, l'armistice, novembre 1918, mars 19, ça y est, je suis le grand-mère, quoi. Alors, c'est soi-disant une conférence internationale. Alors, je ne me suis pas cherché, j'avoue, je dois dire que ce n'était pas bien fait. J'aurais dû chercher qui composait la partie internationale de la conférence. Parce que. Ça aurait été peut-être intéressant, mais on en parlera peut-être un jour de cet aspect international de la conférence de Moscou. Elle est refondée, ça n'a pas fonctionné très bien, hein, parce que de toute façon, ils étaient en pleine guerre civile, et puis il y a la guerre russo-polonaise aussi, il se passe des choses, donc c'est un peu un château branlant leur truc. Elle est refondée lors du deuxième congrès de l'international communiste à Petrograd en juillet 1920. Mais là, ça ne vaut pas tellement mieux non plus, hein, parce que en Ukraine, c'est Makhno qui prend les armes et qui développe un autre espace, cette fois-ci libertaire, dont on a déjà parlé dans cette émission. Donc finalement, ce qui va émerger, c'est la dictature du prolétariat et le pouvoir aux soviets. Ça, par contre, ça c'est bien marqué.
C'est bien torché. Ouais. Ça, mais...
il n'empêche que ça a tellement bien marché leur histoire que Staline, en 1943, il voulait déjà s'en débarrasser un petit peu dans l'entre-deux-guerres, mais il en avait besoin parce que comme tout bon marionnettiste, il a besoin de ficelles pour faire peur aux occidentaux, aux capitalistes, instrumentaliser tout son petit monde. Et finalement, il a attendu que l'outil international communiste ne serve plus à rien. Si le Genève, c'était international avec ce côté...
Ça gênait aussi dans ses relations ouais. avec ses ennemis occidentaux et ouais. capitalistes.
Exactement. Ouais. Il avait besoin, il a été soutenu à bout de bras par les États-Unis. Donc, financièrement et puis en termes d'armement. Hein. Donc à un moment donné, il a lâché l'affaire. Quoi. Comme ça, il l'a laissé. Alors en 1943, on était occupé à autre chose. Hein,
un petit peu.
Autrement plus sérieuse. et c'est mort. Et il en fera autre chose. Et on verra peut-être après ce qu'il en fera. Et donc, pendant ce temps-là, notre ami Kater, il rebondit, lui, cette fois-ci avec des syndicalistes révolutionnaires, des anarcho-syndicalistes et des socialistes révolutionnaires. Là, c'est autre chose.
Une réelle rupture, en fait, avec les partis politiques.
Oui.
Hein, c'est vraiment redonner au mouvement ouvrier toute sa place.
Oui.
La place qu'avait donnée la révolution de 1871 aux ouvriers, en fait, quelque part. Hein, c'est... Je dirais pas qu'ils avaient ça en tête, mais je pense que ça a été aussi quand même un ferment, enfin quelque chose qui a inspiré hein, la commune. La commune de Paris. Peut-être été un échec, mais ça a inspiré quand même pas mal de...
Ah oui, c'est à la fois un... Ça a été un... Je pense que c'était une tragédie pour le mouvement ouvrier, le mouvement syndicaliste, parce que c'était une défaite quand même sanglante. Énormément de personnes.
À la commune, on ne peut pas vraiment parler de syndicats. Ce n'est pas des syndicats qui...
Oui, mais c'est les ouvriers.
C'est les ouvriers.
Qui vont ensuite
pas forcément
donner...
Ils ne sont pas groupés et structurés en syndicats.
Ouais.
Ça viendra après.
Ils en justement. Sont les héritiers, ceux qui structureront les mouvements anarcho-syndicalistes sont les héritiers intellectuels de la commune. Ouais. Et la commune, c'est le terreau sur lequel les syndicalistes révolutionnaires ont construit leur
Elles ont vu que les ouvriers étaient capables, en fait, et montré qu'ils étaient capables et qu'on pouvait se passer de parti.
Et ce qui est intéressant, par exemple, tu vois, dans le Cater qui travaille beaucoup à l'édification de la prochaine internationale AIT, donc Association internationale des travailleurs de Berlin, il fait paraître, alors j'ai peut-être déjà dit, mais il fait paraître le premier numéro le 16 juin 1922, parce que ça donne un peu la consistance au projet. Et c'est intéressant, le nom de la petite feuille, c'est le Bulletin international des syndicalistes révolutionnaires et industrialistes. Tous les mots sont importants. Et en fait, dans ce titre, il a... Alors, bulletin... mais tous les autres mots sont importants parce que ça place l'internationalisme, le syndicalisme, syndicalisme révolutionnaire, et puis les industries, c'est-à-dire qu'on est un producteur. On peut produire quoi, des outils, on peut produire des textes, on peut produire du blé. Enfin voilà, mais on est des producteurs et un service. Et donc je trouve que c'était emblématique de. Et là, c'est une pensée construite. Hein. Là, on est vraiment dans le syndicalisme révolutionnaire qui va émerger avec la création de cette AIT de Berlin entre le 25 décembre et 1922 et le 3 janvier ou 5 janvier, je ne sais plus, 2 janvier 1923. Donc il y a un congrès. Déjà pour que tout ce petit monde se déplace, c'était un défi. Hein. Le 15 janvier suivant, il va publier un bulletin d'information. Donc cette fois-ci, c'est un bulletin d'information, puisque il va relayer avec son deuxième... il met des moyens, c'est pareil, hein, c'est une feuille, c'est un bulletin, c'est un recto verso. Hein. Il met les moyens en place pour diffuser la parole et des décisions de cette première conférence, qui est aussi la conférence fondatrice, dans son bulletin d'information de l'Association internationale des travailleurs. Voilà, aussi, il a tout dit. C'est-à-dire que là, c'est le bulletin d'information qui va vous dire ce qui s'est passé, puis qui demande aussi à ce que les ouvriers se syndiquent et adhèrent. Quoi. Alors ça, c'est une deuxième une paire de manches.
Y a quand même...
Et c'est publié en français.
Il y a quand même du monde. Alors, il n'y a peut-être pas toutes les organisations, tous les pays qui sont représentés, mais c'est gentil de me donner une photocopie du bulletin d'information, mais je n'arrive pas à lire. Oui, alors, il y a quand même pas mal de pays, de plusieurs continents qui sont représentés. Il n'y a pas tous les pays du monde, mais de grosses formations syndicales. Reprends ton bulletin. J'ai vu qu'il y avait les Industrial Workers of the World de Chili.
Du Chili.
Il y a la Fora Argentine.
Oui.
L'USI italienne.
Oui, il y a exactement. Oui. Il y a la SAC suédoise. Il y a une FAU en Tchécoslovaquie. Faut dire aussi que pourquoi une FAU ? Parce que c'est l'allemand, hein, Freier Arbeiter Union, mais parce que c'est une ancienne partie de l'Empire austro-hongrois, où l'allemand était la langue
officielle.
Et il y a la même chose pour l'Allemagne d'ailleurs. Mais il y a plusieurs organisations pour l'Allemagne. Il y a les anarcho-syndicalistische Jugend, l'anarcho-syndicalistische Jugend, c'est la jeunesse anarcho-syndicaliste. Donc comme quoi, c'est des jeunes travailleurs qui adhèrent, tous ceux qui n'ont pas été butés durant la Première Guerre mondiale. Il y a une autre organisation, l'Allgemeine Arbeiterunion. Alors ça, c'est l'Union Générale des Travailleurs. C'est des syndicalistes. Hein. Certainement que ça doit. Alors, je n'ai pas fouillé non plus en quoi ces différentes structures En quoi se distinguer les unes des autres, hein, désolé. Mais très vraisemblablement, ça a trait à l'histoire du syndicalisme en Allemagne, un peu comme chez nous. Il y a peut-être des nuances, mais alors, lesquelles, je ne sais pas, chers auditeurs. Après, pour la France, il y a le comité de défense syndicaliste, la fédération unitaire du bâtiment, la fédération des jeunesses syndicalistes de la Seine. Hormis le terme jeunesse, on aurait pu appartenir à ce mot. Ça vous fait rire, le technicien. Oui, ouais, désolé. C'est sûrement une erreur de frappe. C'est la Fédération syndicaliste de la Seine. Bon, donc ça fait quand même une grosse douzaine d'orgas qui sont présentes, qui envoient des délégations pour participer et élaborer le contenu du congrès. C'est pas négligeable, hein, comme tu l'as dit, c'est voilà, il y a de l'espagnol, du chilien, de l'argentin, il y a des continents, différents continents.
Ouais, et puis ils comptabilisent pas mal d'adhérents aussi. Ouais. Donc ça représente du monde, c'est pas juste quelques leaders qui prennent des décisions pour... tu vois, c'est... Enfin, ils représentent une masse, pour le coup. Des masses.
Et puis, comme le bulletin indique, les adhésions, elles continuent à arriver quand même, y compris pendant le congrès. Donc, c'est des voix aussi que peuvent, qui comptent, parce que c'est un homme, une voix, qui compte dans les décisions, parce qu'il y a des mandatés qui reçoivent des mandats de personnes qui peuvent pas de camarades qui peuvent pas se déplacer. Enfin, il y a tout un processus de représentation et d'être le plus juste possible par rapport au que chacun puisse exprimer, quoi. Voilà, donc c'était c'est un petit bulletin et il est publié, alors il est publié, alors j'ai regardé, mais la rue, je suis pas sûr que le bâtiment existe toujours, parce que là où il a été édité par Fritz Kater, bon, Berlin était rasé durant la guerre, mais la rue existe toujours.
Enfin, la Seconde Guerre mondiale,
oui. C'est la Copernic Kuhstrasse. Et bon, c'est assez moche, hein, en fait. Bon, je dis ça comme ça, pour ceux qui voudraient aller faire un tour. C'est. ouais, c'est ouais, une espèce de. Ça ressemble à un boulevard et avec un tram de mémoire. Bon, dégueu, quoi. Voilà, c'était tout. On n'est pas très loin du mythe, du centre de Berlin, quand même.
Alors, ce qui me vient à l'esprit aussi, 1922, c'est quand même l'année où le fascisme italien va émerger, va même plus qu'émerger. Le nazisme aussi.
Un peu plus.
Ça commence en 22. C'est en 33 qu'ils auront un peu plus de pouvoir. Ouais. Et puis, mais.
Oui, non, mais c'est pas faux.
Donc, c'est. c'est vrai qu'en fait, la fin de la Première Guerre mondiale, ça a un petit peu mis en ébullition à la fois les anti-autoritaires et puis des gens ultra-autoritaires, des nationalistes, les nazis, ils définissaient peut-être plus comme nationalistes, peut-être les fascistes, je sais plus.
Les fascistes
oui, c'est autoritaire en tout cas.
Ah oui, de toute façon,
donc voilà, c'est. Et le problème, c'est qu'ils vont quand même. Les sections ou les fédérations dans chaque pays où se développe le fascisme, ils vont être quand même sérieusement confrontés
Alors, oui, la réalité du terrain avec.
Une fois que ces partis nationalistes vont prendre. Et autoritaires vont prendre le pouvoir.
Oui, les fascistes italiens, parmi leurs premières mesures, ça va être aussi d'investir les syndicats, de les structurer comme des vecteurs idéologiques et de soutien, et puis des soutiens à l'État fasciste, quoi. Je pense pas ils ont expurgé ils ont lutté contre effectivement tous les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires, mais il y a une partie des réformistes dans les syndicats qui ont parfaitement adhéré au fascisme en Italie, en tout cas. Mais les autres ont mangé, oui.
On aurait une petite pause musicale, parce que justement, on va se mettre les Sfinkels.
We'll go skiing high in the mountains of southern Africa and travel to northern Nigeria to hear about the growing popularity of a particular sport, polo. That's Inside Africa, only on CNN.
La Fiat procederà unilateralmente. L'accordo con i sindacati permetterebbe di definire un incentivo all'uscita dei lavoratori da porre in mobilità.
Je vis dans un pays où les gens sont libres d'être racistes. Putain de régime, je vois pas l'électorat fasciste. Maigrir, sont devenus grossistes. Font plus dans le détail, mondialisent leurs bêtises comme des nébuleuses islamistes. Manger du facho, mon plat de résistance. Y'a pas qu'en France, ça sent le suif et je prends pas de distance. Si jette la pierre au voisin, je vais pas le faire en juif. Mate la politique de l'autruche face à l'Autriche. Les mecs veulent l'Europe, ça dérape dans nos pays riches. Autant se voiler la fâche, je me fiche, leur force attrape. Tombe pas dans le piège, un faux con. Je veux dire un vrai con, faire des guerres de religion comme cours de récréation. Tu danses un slobodan, c'est le quart d'heure américain. On va au Balkan, y'aura plus de femmes chez les talibans. Sont enfantés, la force obscure qu'en veut à l'Empire. Maintenant, vaut tout contrôler en gueulant papier.
C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'inter-nazi, nazi, national sera le genre humain. C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'inter-nazi, nazi, national sera le genre humain.
Y'en a marre, faut que ça stoppe, ça s'arrête. On l'a déjà dit, le monde tourne pas rond. Putain de planète, est-ce que les hommes sont bêtes ou font exprès? J'ai pas la réponse, mais en attendant, ce que je sais, c'est qu'on peut plus fantasmer sur un monde sans couleur. C'était l'utopie, maintenant va falloir se battre, et puis tant pis. Et même si je suis le dernier de l'espèce, la rage au ventre quand y'a un facho qui rentre dans la pièce. Seul à vouloir qu'il parte sans demander son reste et d'étaler. Je vais engrainer les autres à le tabasser à coups de madrier. Et si même foutre un procès, pas la peine. Au tribunal, je dirais, c'est pas moi, c'est Ben Laden. Je ressors mon couplet pourri, nique les nazis. Cynique les indécis qui savent pas quoi faire. Ah, faut des papiers pour Bounoula. Mon gars, ici on veut pas de toi. Faut des papiers pour Bounoula.
C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'international sera le genre humain.
Ici on n'extrate pas pour génocide. Un dictateur qui se négocie pas au prix du baril. Demande à Poutine, pour lui c'est la routine. Dès qu'il y a trois morts tchétchènes, on sort la vodka de Chin-Chin. Quand on voit que les CIO donnent aux Chinois les chiots, on se dit que les droits d'homme sont pris pour des idiots. Et les mafiosos trinquent au Coca-Cola en se disant que plus de 2 milliards d'Asiates vont boire du soda dans 10 ans. Le conflit régional, c'est notre conflit dans le journal. On a mangé la guerre froide, ouf la chaude, on se régale, ouvre grand ta bouche, on te chitant. C'est George W. Rica qui se fout des bougnoules et des peuples africains. La religion qui vend aux pauvres, la Kalachnikov. Un autre vodka plus meurtrière qu'une biture de Kazakh. S'il faut soutenir un régime dictatorial, on le fera quitte à envoyer des djihad sur djihad. Sans rêver de voir Kaboul et Bagdad cassés. Mais sont tombés sur du pur arabique à corser. Y'a un grain de sable dans le machin, leurs noirs ont les mains sales. Luttons tous au final contre l'international.
C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'inter-nazi-nazi-national sera le genre humain. C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'inter-nazi-nazi-national sera le genre humain. C'est la lutte finale. Trouvons-nous ou demain. L'inter-nazi-nazi-national sera le genre humain. C'est la
traverser la lune de vue.
Oui, ben vous, donc c'était les Sunkels qui nous interprétaient l'international.
Mmh. Bah voilà. C'est l'antithèse de.
Ben voilà. Non, enfin eux, ils prennent pas.
Non, c'est une critique, on s'entend.
Une internationale nazie, hein, il la déplore.
Ouais, ouais, ouais.
Et effectivement, toi, donc, comme je disais, hein, toutes les sections ont subi la répression exercée par les dictatures ou les fascismes. Ouais. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui se trouvait à l'est de l'Europe, on a pris plein la gueule. Et puis, bah, tout ce qui se trouvait dans les pays ibériques ou latinos, ils en ont pris plein la gueule aussi. Mmh. Bah, il ne reste plus grand monde après.
Bah, c'est vrai que les années 20 ont été des années de libération. Après 4 ans de guerre, quand même assez inédite par le pouvoir de destruction. Et puis, ce que je disais dans une autre émission, c'est que, en fait, la guerre, la nouveauté dans la guerre de 14-18, c'est la volonté d'anéantir. D'anéantir. Mmh. C'est pas compliqué, hein. On ne cherche même pas à faire, tiens, pampan, ok, tu mets ton petit drapeau blanc, ok, c'est bon, on a fini, on signe un accord, tu as garanti chez soi, bon, je te prends un peu de pognon parce que c'est la guerre, hein. C'est normal, il faut bien gratter. Ça, c'est fini. On est là pour tout bousiller, quoi. L'autre, on doit le réduire à rien. Et ça, je crois que ça effraie. Puis avec des moyens techniques, l'industrie, c'est la première fois aussi où l'industrie
militaire, et chimique, ouais, ça.
Voilà, ça produit pour et on lui demande de produire pour détruire l'autre. Alors pour se protéger, soit, mais surtout pour détruire l'ennemi et fait des progrès. Alors on lit parfois des articles intéressants, du reste, sur les progrès de la chirurgie réparatrice au cours de la Première Guerre mondiale. Alors ça, c'est... ça permet... Ensuite, ça sera réinvesti dans la chirurgie civile, effectivement, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on a brisé des corps, brisé des cerveaux, des systèmes nerveux, enfin, je veux dire, on a brisé des tas de vies, quoi, pour gagner 2 mètres, 3 mètres, une côte, puis la reperdre, puis la regagner, puis la reperdre, puis la regagner. Enfin, ouais, c'est vraiment... En plus, c'était complètement inutile, quoi. Puisque jamais personne n'a fini par gagner. C'était l'armistice, hein. C'était pas... allez hop, on arrive, on envahit le pays, on dit, bon, allez, c'est fini, on a gagné, allez, chacun chez soi, et puis... tu vois, c'est... C'était, franchement, c'est la première guerre d'anéantissement et internationale, pour le coup, enfin mondiale, qui a fait venir tous les continents sur le théâtre des opérations. Et les opérations sont multipliées dans l'espace, dans le temps, bien sûr. Et non, c'est un réel traumatisme. Donc après, les années, les années 20, ça a libéré... alors, libérant bien, comme ça que je le perçois, la création de l'International des Travailleurs à Berlin. Mais après, oui, tu le dis, ça va libérer des forces autres qui sont... alors, soit qui étaient déjà un peu... Soit qui parlent déjà de revanche, quoi. Mmh. Donc, revanche sur quoi tu sors toujours perdant d'une guerre, quel que soit ton camp. Hein, c'est...
Ouais, mais t'avais des... Bon là, t'es un peu loin de l'AIT, mais si, justement, en Italie, ils ont perdu... ils n'ont pas été les... Oui, ils ont été des grands perdants, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas récupéré tout ce qu'ils s'attendaient à récupérer en termes de territoire. Ouais, Donc, oui, ça fait naître des frustrations, des colères, surtout pour les anciens combattants, qui n'étaient pas forcément vieux. Mais ceux qui ont survécu et puis qui avaient qui étaient acquis au nationalisme, bon, en tout cas, la Seconde Guerre mondiale, effectivement, peut-être ça a pu montrer effectivement aux travailleurs, puisque la guerre mondiale est internationale, qu'il pouvait aussi avoir un groupement international dans l'intérêt des travailleurs.
Et encore une fois, c'est là on a.
C'était même nécessaire d'ailleurs.
Ouais. Et là on a des travailleurs qui s'organisent qui appartiennent à des syndicats et qui s'organisent pour fonder leur international. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez Marx, on n'est plus chez Engels, hein, en 89. On est sur de. Et on n'est plus non plus chez les bolchevaux. Une espèce de théâtre de marionnettes que sera la troisième internationale. Dite troisième internationale. On est sur. Et là, on a des ouvriers, des syndicalistes révolutionnaires, des anarcho-syndicalistes qui s'organisent. Et ça, je pense que c'est la première fois.
D'ailleurs, je fais une aparté là. C'est vrai que quand on parle des internationales, donc une, deux, trois, on va pas parler de la CAP, mais une, deux, trois, mais c'est, il faut toujours qu'il y ait une. Il faut que y ait une participation des États, quelque part, tu vois, ou des partis établis. C'est vrai que l'AIT, tu vas pas trop la trouver dans des. Les que sais-je par exemple sur les internationales,
il y a peu de
choses. Pas sûr qu'ils en parlent en fait. Je me rappelle pas, non, ils en parlent, même, ils en parlent même pas. Alors que là, pour le coup, c'est une véritable internationale ouvrière.
Ouais.
Non, mais c'est.
On verra, ça sera intéressant de savoir ce qu'on va en dire les spécialistes de la question lors de la petite intervention qui aura lieu.
On en reparlera tout à l'heure, mais chers auditeurs, sachez que le 11 décembre, le syndicat EdPix 94 organise au 33 rue des Vignoles, si je ne me trompe pas, mais on leur donnera tout à l'heure l'info, un atelier de culture populaire, je ne sais plus comment ils appellent ça, sur les 100 ans de la création de l'AIT.
Avec deux invités qui sont des spécialistes.
Bah, on donnera toutes les infos au moment des annonces militantes, qui vont pas tarder, parce que je vois qu'il est 47 déjà. Donc, cher camarade.
Cher camarade, le camarade, il te dit que. J'ai même pas vu qu'il y avait des Mexicains aussi.
Ouais.
Bah oui, la Confédération Générale du Trabajadores.
C'est moins bon que l'allemand, là, je trouve quand même. Hein, c'est moyen, l'accent.
Moi, j'ai jamais fait l'espagnol à l'école. Donc,
Ça s'entend.
Est-ce que tu as été à l'école?
Bon, il y a longtemps. En tout cas, pas en espagnol. Ça, jamais. C'est vrai que. C'est vrai que c'est international. Et puis, bon, alors, je ne sais pas combien ils étaient, les Mexicains, mais déjà, il fallait payer le billet de bateau.
Pour pouvoir se déplacer, ouais.
Ah, ouais. Donc, c'est vrai. Ça c'est le premier. C'est nous. Hein. Parce que je vais poser la question de. On en fait quoi de l'AIT de 1922 ? Aujourd'hui, c'était pas une question en l'air, c'est. On en est finalement les héritiers. Un petit peu. Et. Même si, depuis, il y a eu scission, exclusion. Pas mal quand même.
Oui, puisqu'il nous reste effectivement plus beaucoup de temps, c'est vrai que les années 90, on va s'en tenir à ça, y a eu du ménage de fait quand même. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les. Donc les sections étaient laminées par les pouvoirs dictatoriaux, mais. Quand il n'y a plus de dictature, après c'est une sorte de puritanisme, c'est un peu provocation si je dis ça, syndicaliste révolutionnaire qui va exclure quand même pas mal de monde, et notamment de grosses formations quand même syndicales. Je crois que la SAC a été virée, la FAU. Allemande, donc, la CNT. Enfin, la CNT, il y a une scission entre la CNT AIT et la CNT dite des Vignoles, celle que nous représentons aujourd'hui. Et la CNT des Vignoles, en 96, a été virée, semble-t-il. Et moi, quand j'ai commencé le syndicalisme, on utilisait toujours. C'était après 96, juste après.
CNTIT.
Tu disais toujours CNTIT. Un jour, il a fallu l'enlever quand même. Mais bon. Ouais, et d'autres. Et j'ai l'impression quand même que les formations, les sections qui restent aujourd'hui au sein de l'AIT, ça m'a l'air d'être vraiment des groupuscules, en fait. Hein. Alors, il y a peut-être des grosses formations quand même, ou des formations qui ont des moyens.
Oui. Reste à savoir quel travail elles font et quelle influence elles ont sur...
Alors là, j'ai pas amené le listing, mais j'ai vu... Alors, y a sur Wikipédia, vous pouvez trouver... Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, Wikipédia. Il y a quand même un certain nombre d'adhérents à cette AIT. Il y a des amis aussi. J'ai quand même vu les endroits... d'où ils viennent, où ils sont situés géographiquement, j'ai quand même l'impression qu'ils doivent pas être super nombreux quand même. Hein. Et puis, quand ils sortent avec un drapeau, ils doivent en prendre plein la gueule. Hein.
Bah oui, c'est un peu...
Mais je me rappelle plus. Hein, franchement, je les ai pas en tête. Donc, voilà. Donc, alors, l'internationalisme de l'AIT, est-ce qu'il est vraiment à l'AIT aujourd'hui, ou est-ce qu'il se retrouverait pas, ou...
Il a essaimé de toute façon. Il est dans les rencontres.
Les continuateurs aujourd'hui.
Oui, nous, et puis les rencontres qu'on peut avoir, nous, CNT française, avec des camarades d'autres syndicats, d'autres confédérations à l'international. Alors, c'est pas forcément de grandes rencontres internationales. Encore que...
Il y avait eu la mise en place de la CIT, la Confédération Internationale du Travail,
ouais.
Justement, qui la rassemblait une partie de tous ceux qui avaient été exclus de l'AIT.
Ouais.
Historique, hein, j'entends.
Ouais.
Et là, j'ai l'impression que ceux qui font partie de l'AIT, de la CIT, anciennement AIT historique, ont l'air d'être plus nombreux quand même.
Ouais.
Que...
Et puis on se rejoint à travers on se rejoint pas forcément à travers des grands congrès ou des grands rassemblements, quoique mai 2000 alors moi j'y étais pas, mais mai 2000 c'était un événement important. Je suis arrivé l'année suivante, donc mais voilà, c'est pas forcément de grands événements qui réunissent tout le vaste monde mondial, mais voilà, des rencontres parfois comme des aides aux camarades grecs, ou comme
les visées internationalistes, l'aide internationale existe toujours, mais en tant que structure qui va où il va y avoir des échanges sur effectivement une conduite commune simultanée d'organisation de la masse ouvrière dans un objectif commun de révolution sociale,
on n'en est pas,
c'est vrai qu'il y a une tentative donc avec la Confédération internationale du travail, la CIT, à laquelle n'a pas adhéré à l'époque la CNT, mais qui était en tant que CNT Vignol, mais qui était en tant qu'observateur, observatrice.
C'est en quelle année ça? Donc ça a été créé là, c'est récent.
Ça a été fondé en 2018 à Parme.
On s'est discuté
un petit peu avant, mais l'acte fondateur c'est 2018. Ouais.
Ouais. Bon, bah c'est récent, encore un petit peu de temps.
C'est récent, je suis pas sûr.
Peut-être que cet anniversaire va susciter les vocations.
Ça serait pas mal, ouais.
Ouais. Bah écoute, c'est le moment d'essayer de donner de l'ampleur à un mouvement qui est un véritable mouvement ouvrier de travailleurs, enfin de producteurs, et pas de... Je sais pas quoi, des citoyens ou des je sais pas quelle connerie. Hein. Me semble-t-il. On va peut-être passer aux annonces. Alors, donner celle que tu as commencé à donner, qui était importante.
Ouais, je la retrouve.
Et submergé par les...
Donc voilà, les annonces militantes, sans jingle, sans rien, parce qu'on n'a rien prévu. On aurait pu nous mettre un chat qui miaule, un truc, trop tard. Trop tard.
J'y ai pensé, puis je sais pas, Eric m'a coupé. C'est la faute des autres, forcément.
C'est la faute des autres. Donc, Berlin, 1922, Association internationale des travailleurs, il y a 100 ans, on essaie une internationale anti-autoritaire. Donc, est-ce que je dis tout petit? Oui, allez, la CNT est exclue de l'AIT en 96, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans des circonstances pitoyables. Ah, on vous a pas dit, hein, c'est vraiment ce qui oui, enfin, non, l'exclusion, c'est vraiment sur des... Pas des broutilles, mais... bref. Pour autant, l'Association internationale des travailleurs, qui est née à Berlin en 1922, continue d'être une référence du modèle syndical que nous défendons. Et notre internationalisme ne s'arrête pas à l'appartenance à telle ou telle autre organisation. Elle s'inscrit dans les faits. C'est pourquoi nous invitons les camarades à venir discuter des grandeurs, des misères de l'AIT de 1922 à 1990, en même temps que l'animation graphique du colloque... évoquera surtout l'action internationale de la CNT au 33 rue des Vignoles avec l'AIT ou sans elle. Donc voilà, c'est un peu ce que tu disais, Eric, hein, l'internationalisme ça continue même si on n'est pas à l'AIT. Dimanche 11 décembre 2022 à partir de 15h au 33 rue des Vignoles à Paris 20e. Donc c'est bien l'atelier de culture populaire avec alors les personnes qui participent au colloque, les invités sont... Je vais le dire en français. Moi non plus, je ne sais pas. Je vois qu'il y a des accents. C'est
l'hôpital qui se fout
de charité. Julien Vadilio Munoz et François Guinchard. Ça, voilà. Ah. Des historiens. Voilà. C'est environnement bien. Graphique, c'est Elios Gomez, Diaz de Ira, jour de colère, donc, et l'internationalisme au 33 rue des Vignoles. Et tout ça fait par le syndicat EdPix 94, qui, je le rappelle, fait une émission le 5e dimanche de chaque mois, quand il y en a, donc par trimestre, sur Radio Libertaire, de 15h30, 17h. Voilà, pour les écouter aussi.
Et que nous saluons.
Que nous saluons. Voilà.
Une autre petite annonce ?
Oui, j'en ai pas donné. Bah, ouais.
Quelque chose.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? L'Alico-syndical est sorti. Oui. Le numéro 5.
Exactement.
Ah, vous pouvez vous le trouver au 33 rue des Vignoles si vous venez lors des permanences, les lundis à partir de 14h, sous format papier, ou si vous écrivez au bureau régional de la CNT-RP, eh bien, vous pourrez l'avoir sous format numérique. Mais le papier, j'aime bien. Voilà. Bon, voilà. On a encore 3 minutes.
On va les utiliser malgré la pression.
Et
malgré
la pression. Il fout la pression. Mais, hein?
Mais là.
Jean-Manuel qui est là, il nous surveille, bordel.
Mais j'ai eu un petit gâteau, alors c'est bien.
Ah bah. Non seulement on est acheté, mais pressé. Hein.
Et si vous êtes sage, il y a peut-être des gâteaux qui restent.
Je ne suis pas assez gros, t'as raison. Bon. D'autres... Moi, j'ai pas envie d'en faire. Des annonces. Un communiqué de presse, là, vite fait. Il est pas tout...
Il est pas tout neuf.
Il est de octobre 2022, mais c'est camarades de syndicat industrie et services d'Haute-Garonne. Nouveau scandale en EHPAD, grave entorse au droit syndical à Domusvie. Voilà. Ah, c'est... camarades qui sont allés... parce que je l'ai lu, mais c'était comme c'était au mois d'octobre, c'est comme si je leur découvrais, là. Donc, en fait, on leur a refusé l'accès au protocole d'accord préélectoral des élections, et donc, ils sont en conflit avec leur direction. Voilà.
Ouais, ça, c'est un ordre des choses.
Ouais. Moi, c'est pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que...
Sur la gueule. Hein,
c'est comme ça qu'on apprend. Mais bon, faut pas trop prendre sur la gueule, quand même. Bah, ce communiqué de presse, vous le retrouverez sur le site de la Confédération Nationale du Travail. On va quand même s'arrêter là. On ne va pas tarder à lancer le générique. On va saluer tout le monde. Bénédicte à la technique, qui est tant pressé après avoir été acheté par Jean-Manuel, elle est pressée de nous couper le sifflet pour passer les muses s'amuses qui vont suivre. Merci Eric. Ouais.
Merci à vous.
T'as encore fait un travail d'historien presque. Hein. Ça serait presque ton métier, on dirait.
Ouais, finalement, Non.
Moi, bon, bah, je vous salue tous. Bénédicte, au revoir. Et puis, donc, je salue Manuel qui est là. Et Jean-Manuel, pardon.
T'envoies les gâteaux, tiens.
Et Bénédicte va nous lancer le générique de fin.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la
révolution.